Depuis que Barkhane est décrété au Mali et mis à abattre, et ce à la faveur de ces scandaleux accords militaires qui, imposés par la puissance d'occupation à un État malien, vampirisés, n'ont servi en fin du compte à l'expansion du terrorisme, l'affaiblissement de l'armée nationale et partant, la prolongation de l'occupation, les événements s'accélèrent au Mali. Diop, le premier diplomate malien et chef de la diplomatie, vient ainsi en complémentaire à l'annonce de la rupture de toute coopération militaire avec la France, lancer une offensive diplomatique d'envergure en se rendant à la tête d'une haute délégation au Togo avec qui les États-Unis d'Amérique entreprend une bonne relation et ce, dans le strict objectif de diviser le camp occidental face au Mali. Après tout, il est bien grand temps de retourner cette devise si longtemps utilisée contre les Africains par les Occidentaux, à savoir diviser pour mieux régner contre eux-mêmes. Faure Gnassingbé, président togolais dont le soutien au Mali ne s'est jamais fléchi, est un excellent choix. Et c'est cela même qui inquiète la France et son média néocolonial RFI. Pourquoi? Car l'homme sait comment manipuler les Yankees de façon à ce qu'ils reculent. Voici comment est rapporté le récit par RFI. Le Mali cherche le soutien de ses voisins face aux sanctions. Depuis début janvier, Bamako est visée par des mesures de rétorsion économique lancées notamment par la communauté ouest-africaine afin de raccourcir la durée de transition alors que les militaires au pouvoir tablent sur une période de 2 ans. Mardi, une forte délégation ministérielle s'est rendue au Togo pour demander l'appui de Lomé, dont l'influence au sein de la CEDEAO n'est pas négligeable. Le Mali veut rallier ses voisins à sa cause et renforcer son poids diplomatique, notamment face à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. La France et ses acolytes ne sont pas contents et c'est le moins qu'on puisse dire, mais le choix du Togo pour devenir l'un des partenaires du Mali dans sa lutte anti-Occident est d'autant plus inquiétant pour l'ex-US OTAN quand on sait que cet axe a beaucoup misé sur ce pays durant toutes ces années. En commençant par l'adhésion du Togo à un programme international de prévention des conflits avec les États-Unis et en passant par le souhait des États-Unis de faire du Togo un hub logistique et numérique, on comprend très bien la déception dans le camp occidental qui voit ses précarés se tourner un vers une politique indépendantiste et souverainiste. Jusqu'ici, les Occidentaux s'inquiétaient plutôt du fait que le scénario malien fasse des émules au Sahel, à savoir au Burkina et au Niger, mais désormais il semblerait que les pays de l'Afrique de l'Ouest suivent également cette vague anticoloniale. Tous les plans maléfiques occidentaux sont voués à l'échec. Une coalition et union interafricaine sans précédent est en train de naître et de s'étendre à une vitesse inimaginable. La résistance malienne et même sahélienne est passée à l'action. Les messages sont passés. Ni les sanctions, ni les menaces et ni les pressions ne feront reculer le peuple malien. Comment se venger de la RCA, dont le président a entamé via ses accords militaires avec la Russie un retour vers l'Est à l'échelle de tout le continent, via l'arme de la dette? Voici comment on parle RFI. L'avenir paraît incertain pour nos finances et l'économie nationale. C'est en ces termes sombres que le ministre du Budget s'est adressé à ses collaborateurs mardi 3 mai après son voyage à Washington. Un déplacement difficile pour Hervé Dauba, car selon lui, il ne faut pas attendre de décaissement prochain du FMI et de la Banque mondiale. Ils n'ont point inscrit cet engagement dans leur agenda. En effet, les deux institutions veulent d'abord des assurances que leur argent ne serve pas à financer le groupe paramilitaire russe Wagner, proche de Moscou et désormais présent sur le territoire centrafricain. Mais n'est-ce pas là une forme d'embargo qu'on impose à la RCA pour le punir, un peu comme le Mali d'avoir défendu, par ses choix politiques, sa souveraineté? Mais la RCA, que le texte ne cesse de traiter de deuxième plus pauvre pays du monde, va-t-elle se laisser faire? Évidemment que non. D'où son recours à la Bitcoin, en prévision des secousses monétaires que le FMI et la BM veulent lui infliger. En effet, selon les informations, la République centrafricaine a approuvé le Bitcoin comme monnaie légale. C'est le deuxième pays à le faire. Un vote par acclamation à l'Assemblée nationale suffit le mardi 26 avril pour que la République centrafricaine ringardise l'indécroctable franc CFA et érige le Bitcoin monnaie virtuelle en deuxième devise officielle. Le professeur Touadéra, président de la République depuis 2016, a célébré cette première continentale propice à de nouvelles opportunités. Selon cette loi, tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies qu'en forme de paiement lorsqu'elles sont proposées et de disposer d'une convertibilité automatique et instantanée de crypto-monnaies utilisées en République centrafricaine. Évidemment que les médias occidentaux évoquent cette information d'un ton moqueur et sceptique. Le contexte, avec une corruption systématique et un partenaire russe sous sanctions internationales, incite à la suspicion, résume Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique centrale, lit-on dans les médias d'occupation. En effet, depuis plus de 5 ans, la présence des forces étrangères n'ont mené le pays que vers l'insécurité et la déstabilisation, et on a tenté par tous les moyens de faire pousser le pays dans le chaos, et ce, en accusant ses forces armées d'exactions, en fomentant des complots contre les élections présidentielles et en soutenant le putschiste Bozizé. Mais tout cela a échoué grâce à l'unité du peuple centrafricain et les bons calculs du mathématicien Touadéra. Ce nouveau défi imposé par la France et ses alliés sera également relevé avec succès par le gouvernement centrafricain et son peuple. Un pari déjà gagné. Le pouvoir malien a fait savoir que la force française Barkhane n'avait plus de base légale pour opérer dans le pays après la dénonciation par Bamako des accords de coopération militaire. Ceci veut dire que Barkhane n'est plus un partenaire du Mali et pourrait même devenir une force à abattre. C'est avec Luc Michel, géopoliticien, que nous avons analysé cette question. Écoutons-le.
Écoutez, tout d'abord, il faut comprendre que le Mali, c'est une séquelle de ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que la confrontation entre les blocs est devenue telle que le Mali, qui est allié de la Russie, ne veut plus des Français. Les Français ont fait du chantage sur l'arrivée des Russes, puis ils ont essayé de saboter. Il y a l'histoire du charnier qui a été découvert près de l'ancienne place française. Il y a l'interdiction des médias d'État français, RFI et France 24. Tout ça fait un climat dans lequel Barkhane n'a plus rien à faire au Mali. Le problème, c'est que Mali dispose, d'après les traités signés, de 6 mois pour quitter le pays. Et il va tout faire pendant 6 mois pour saboter la situation et les rapports avec l'armée malienne. D'autant plus que Paris, évidemment, dans le cadre de confrontations entre la Russie et l'OTAN pour le moment, Paris a reçu le soutien de l'Union européenne qui se dit scandalisée par la rupture des accords. Voilà laquelle est la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la position du gouvernement malien est solide, l'armée est derrière les colonels de Bamako et la population est également derrière les colonels de Bamako. Actuellement, le mouvement Yerewolo et par la députée Amina Fofana, ils sont en train de créer des comités révolutionnaires sur le modèle de ce qu'avait fait Kadhafi en Libye pour appuyer la révolution malienne et offrir un soutien populaire. Donc les Français peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une défaite majeure, le départ de Barkhane, et c'est considéré d'ailleurs par les médias français comme la victoire du côté russe. J'ai été interviewé hier par la chaîne de télévision française TV5 et on m'a posé expressément cette question. Est-ce que vous considérez que le départ de Barkhane est une victoire du camp anti-français et la revanche des événements de Libye en 2011. Et je pense que ma réponse a été positive, c'est-à-dire que nous avons subi une série de défaites jusque 2015, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps africain. Avant ça, il y avait eu toutes les opérations militaires qui ont eu lieu en Europe et en Afrique. Et on avait une impossibilité à résister. Les peuples, évidemment, étaient défaits les uns après les autres. Depuis que les Russes sont revenus en Afrique à partir de 2015-2016, en commençant par le soutien militaire au Soudan et le soutien diplomatique au Burundi, eh bien, dorénavant, évidemment, le camp panafricaniste, il a des possibilités de victoire en Afrique et les Occidentaux vont de défaite en défaite. Voilà ce qu'il faut retirer de toute cette affaire. Ça dément aussi la propagande de l'OTAN qui dit que c'est le monde entier contre la Russie et que la Russie serait isolée. En réalité, il y a de plus en plus de populations dans le monde qui sont du côté de la Russie. Lors du vote à l'Assemblée générale, il y a 2 mois, il y avait 60% de la population mondiale qui soutenait la Russie. Il y avait un expert français, il y a 3 jours, sur les antennes de BFM TV. Il faut écouter l'adversaire parce que c'est révélateur. Il disait que 85% de la population mondiale aujourd'hui était du côté de la Russie, que l'isolement, la volonté d'isolement de la Russie, c'était uniquement une cause occidentale et que le soutien n'était détenu que parmi les masses de l'Union européenne et des États-Unis. J'ajouterai quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs entiers de l'opinion publique en Europe qui ne veulent pas de la guerre et qui ne veulent pas de la confrontation avec la Russie. Il y a par exemple en Russie, à Berlin par exemple, et en Allemagne, ce qu'on appelle les manifestations de la honte, ce sont des milliers d'Allemands avec leurs voitures qui défilent avec des drapeaux russes et des drapeaux soviétiques et contre le soutien à l'Ukraine. La moitié des parlementaires grecs ont quitté le Parlement pour ne pas entendre Zelensky il y a quelques jours, qui était en compagnie de 2 cadres grecs néo-nazis du groupement Azov. Ce n'est donc pas la guerre évidemment médiatique gagnée par l'OTAN, même pas dans l'Occident. Il y a eu une grande étude qui a été faite par un think tank atlantiste anglais qui s'appelle le groupe d'études DEMO. Il est fait par un scientifique qui s'appelle Christopher Clark, qui est spécialisé dans la guerre médiatique, et il explique que la guerre médiatique continue et que l'Occident n'est pas du tout en train de la gagner, y compris en Occident. Quant à ce qu'on appelait le tiers-monde, il prend l'exemple de l'Afrique du Sud, il prend l'exemple de l'Inde et du Pakistan, c'est la défaite complète des Occidentaux. En Afrique particulièrement, il y a les masses populaires qui sont debout derrière la Russie, mais il y a également les élites. Le chef d'état-major ougandais a pris position contre pour la Russie, le fils du président ougandais aussi, et la fille des épouses Zuma en Afrique du Sud, elle fait une campagne sur Twitter, hashtag #WeVrusha. Donc évidemment, l'Occident n'est pas du tout en train de gagner la partie.
Dans le contexte d'une industrie pétrolière qui n'a pas tenu ses promesses au cours de 10 dernières années, plusieurs spécialistes des questions énergétiques montent au créneau pour proposer des solutions permettant de renverser la tendance au Ghana. Amos Ofori-Kwa, ancien directeur général de la société pétrolière publique, s'est prononcé sur les faibles performances de l'industrie pétrolière nationale et les moyens de la stimuler. L'expert propose que les termes de l'accord signé avec les firmes internationales dans le cadre de la monétisation des ressources pétrolières soient revus en raison de leur incidence négative sur les recettes publiques. Personnellement, je pense que nous devrions revoir l'accord et revenir à l'accord de partage de production, car ce que nous obtenons n'est tout simplement pas juste par rapport aux efforts que nous déployons, a indiqué M. Kwa en marge du lancement de son livre intitulé My Footprint in Ghana's Black Gold. D'après l'ex-patron, le deal pour l'exploration de la manne pétrolière du pays représente, dans l'état actuel des choses, un obstacle majeur, tant pour l'essor du secteur pétrolier que pour l'économie ghanéenne dans son ensemble. Selon le spécialiste, la barrière peut être levée si le gouvernement adopte l'accord de partage de production comme base contractuelle, car celui-ci présente l'avantage d'éviter de faire peser sur l'État des risques financiers liés à l'exécution des activités d'exploration et de production. Le faible accès à l'Internet est l'un des nombreux freins à la transformation numérique de l'Afrique. Le Burkina Faso veut mettre à la disposition des populations des appareils électroniques à moindre coût, made in Burkina, pour pallier ce problème. Horizon Industries, la première usine burkinabé d'assemblage d'équipements électroniques, a officiellement démarré ses activités. Elle a été inaugurée le vendredi 29 avril à Ouagadougou, dans la zone industrielle de Kossodo. D'un coût total d'environ 7,5 milliards francs CFA, le projet a bénéficié de l'appui technique et financier de partenaires tels que la société chinoise Ayer, la Banque agricole du Faso, la Banque commerciale du Burkina, la BSIC et le Fonds africain de solidarité. Le lancement des activités de cette unité de montage et d'assemblage d'appareils électroniques made in Burkina intervient moins d'un an après le lancement des travaux de construction. La RDC et la Zambie entendent, via un projet commun, mettre en valeur leurs réserves de lithium, l'un des composants essentiels à la fabrication des batteries électriques. Au cours d'une visite de travail à Lusaka, la capitale zambienne, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue zambien, Akande Ichilema, ont signé le vendredi 29 avril un protocole d'accord portant sur la création d'une chaîne de valeur commune pour les secteurs des batteries et de l'énergie propre. En séjour de travail à Lusaka, capitale de Zambie, le chef Félix Tshisekedi a rencontré son homologue zambien Akande Ichilema et ont signé un accord relatif à la chaîne de valeur de batteries électriques et renouvelables. Au-delà des enjeux liés à la transition énergétique, le projet devrait contribuer à la diversification de l'économie et la création des emplois bien rémunérés dans les deux pays. Après le Rwanda et le Soudan du Sud, les Seychelles sollicitent à leur tour l'expertise ougandaise en matière d'enseignants. L'île vient de demander à Kampala de lui fournir une vingtaine de professeurs dans les matières scientifiques pour réorganiser son système éducatif. Le ministère ougandais de l'Éducation nationale et des Sports vient de lancer un appel à candidature pour le recrutement de 21 enseignants du secondaire. D'après l'annonce publiée à cet effet, ces enseignants sont recrutés pour le compte du gouvernement des Seychelles. Celui-ci souhaite réorganiser son système éducatif qui connaît un déficit de main-d'œuvre qualifiée, surtout pour ce qui est des filières scientifiques. C'est pourquoi cet appel à candidature concerne les enseignants de mathématiques, physique, chimie, biologie, technologie et l'anglais.